patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, bonjour chers amis.
Alors on poursuit ces émissions patrimoine et spiritualité consacrées aux saints vénérés dans le quartier, hein, c'est bien ça?
Parfaitement.
Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu les références de cet ouvrage?
Alors les références, c'est, j'ai trouvé ça à la bibliothèque de l'évêché, et les références sont M. Cuquel, qui était à l'époque conservateur, et M. Pierre Dallon.
Alors aujourd'hui, nous allons voir donc deux saints. Qui sont lesquels, Chantal?
Oui, alors je vous propose aujourd'hui d'être sur le chemin de Sainte-Trope. Il vous dira quelque chose parce qu'il est présent dans l'abbatiale Saint-Sauveur.
Oui.
Et Saint-Namphèse. Saint-Namphèse, qui est sur le Cos. Alors nous commençons par Sainte-Trope.
Très bien, allez-y.
Alors sa légende nous le place en Perse, où il aurait vécu au 1er siècle, envoyé par Saint Pierre à Mediolanum Santonum, c'est-à-dire Sainte aujourd'hui, pour être le premier évêque de la cité. Il convertit et baptisa la fille du gouverneur. Celui-ci, mécontent, le fit poursuivre par les bouchers de la ville qui le lapidèrent, le bastonnèrent et pour terminer, lui fendirent le crâne d'un coup de hache. Son iconographie, il est représenté en évêque, portant la palme des martyrs et tenant quelquefois la hache de son supplice, conformément au culte des saints martyrs. Son culte, eh bien, nous avons beaucoup de chance dans le Quercy, parce qu'il est bien représenté. Il est essentiellement un saint thérapeute. Par analogie avec son nom, il passait pour guérir l'eutropisie, c'est-à-dire l'hydropisie, rétention d'eau, quoi. Comme en langue d'oc, on l'appelle saint estropie. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec les estropiés ? Dans notre langage, je vous soumets la question. Il était tout naturellement invoqué pour les, finalement, estropiés, les handicapés. L'église de Leim, je vous l'apprends peut-être, lui est dédiée. On y vénère ses reliques, notamment à Figeac, où le reliquaire a été à nouveau placé dans l'abbatiale. Et je vous invite à lire le résumé qui a été rédigé, parce que Sainte-Trope a beaucoup rapporté aux moines de Figeac, qui ont établi la translation des reliques depuis Sainte. Il remplace les reliques de Saint-Vivien, et c'est un peu comme sur le schéma de Sainte-Foy d'Agen, qui a été capté par les moines de Conques. C'est pour ça que notre abbatiale est très très grande, somptueuse, et recueillait beaucoup de pèlerins. Il fallait de la place pour ces gens-là, oui, qui venaient honorer donc Sainte-Trope. Souvent, un tableau le montre bénissant des malades et des infirmes agenouillés devant lui. Il est le patron secondaire de quelques autres paroisses, notamment de Salviac, où ses reliques ont attiré longtemps de nombreux pèlerins comme à Figeac. Une confrérie de Sainte-Trope y a été établie dès le XIVe siècle. Et Figeac, cette confrérie de dévotion, était fort active dès le Moyen Âge. À Pauliac, près de Bretenoux, dans notre département, bien sûr, ces reliques ont la réputation de préserver les enfants des convulsions. À Sérignac, on l'invoquait pour les enfants atteints de malformations des jambes. Donc, sa fête, mais je vous demande, chers amis, de vérifier, sa fête est annoncée le 30 avril. Est-ce qu'il est toujours mentionné le 30 avril? Vous me le direz peut-être.
D'accord.
Voilà.
Alors, avant de passer au deuxième saint, on va écouter du coup l'été de Vivaldi, Chantal.
Ah, je suis très contente, c'est très beau.
On y va.
Merci. Merci.
Seconde partie de cette émission. Alors Chantal, ça c'est quel saint cette fois?
Alors nous continuons.
Oui.
Nous allons continuer et nous allons rendre visite à Saint-Nymphèse.
Ah.
D'ailleurs, Saint-Nymphèse, je vous avais déjà
tout à fait
proposé un petit résumé.
Voilà, vous m'avez même dit hors antenne que des auditrices et auditeurs vous ont interpellé sur ce sujet.
Alors donc, nous allons voir Saint-Nymphèse.
Très bien.
Saint-Nymphèse, ou encore Saint-Nymphase, PH bien sûr, A-S-E, était un officier de Charlemagne qui, au retour d'Espagne, décida de vivre en ermite sur le cos de Cagnac, en Quercy, près d'un oratoire dédié déjà à Saint-Martin. Pour venir en aide aux paysans de cette région très aride, c'est le cos, il creusa dans la roche quantité de réservoirs d'eau appelés depuis lac de Saint-Nymphèse. Remarquez, à la suite de la canicule, je ne sais pas si ces lacs sont toujours remplis d'eau.
Oui.
Un jour qu'il était en prière, un taureau agressif se précipita sur lui et l'éventra. L'ermite prit ses entrailles à deux mains et alla mourir dans son oratoire où il fut enseveli. Alors, son image, Saint-Nymphèse est normalement représenté barbu, vêtu de bure, un taureau couché à ses pieds. Mais on connaît deux représentations différentes. Une statue le campe bizarrement équipée en légionnaire romain, comme Saint-Espérit, si vous avez vu sa statue dans certaines églises, et des vitraux rappellent certains traits de sa légende. La représentation la plus curieuse et sans doute la plus intéressante de Saint-Nymphèse figure sur une peinture murale de l'église de Guirande, près de Felzin. Arrêt obligé des pèlerins sur le chemin de la route de Saint-Jacques. Donc, on le voit ici à Guirande, près du taureau, tenant entre ses mains un paquet d'entrailles sortant de son ventre ouvert. Maintenant, je vais aborder le culte de Saint-Nymphèse.
Oui.
Le tombeau de Saint-Nymphèse, dans la crypte romane de l'église de Cagnac-du-Causse, a été longtemps, et jusqu'à une date récente, un lieu de pèlerinage. Il y venait notamment des malades atteints du mal caduc, ou alors épilepsie, qui, pour obtenir leur guérison, devaient passer sous le petit sarcophage contenant les restes du saint. Est-ce que vous connaissez ce petit oratoire, Armand ?
Non, du tout.
Armand, c'est à visiter, c'est à voir.
Ah,
il faut se baisser pour passer sous le sarcophage. D'après le chroniqueur quercinois Guyon de Malleville, au XVIIe siècle, les reliques de Saint-Nymphèse étaient honorées par grand concours de personnes, non seulement de tous les endroits du royaume, mais encore des pays étrangers. Vous mesurez un peu la notoriété de Saint-Nymphèse.
Eh oui.
Saint-Nymphèse est donc le patron secondaire des paroisses de Quissac, de Guirande, et bien entendu de Cagnac-du-Causse. Dans cette dernière localité, un oratoire lui est également dédié, où la population se rendait naguère en procession lors des principales fêtes en portant ses reliques. À Cahors, une chapelle Saint-Nymphèse existait dans le faubourg qui porte encore ce nom. Et Figeac avait son hôpital Saint-Nymphèse qui dépendait de l'abbaye Saint-Sauveur. À Saint-Jean-de-l'Or, dans un site désert, près du fameux gouffre de l'Antouille, on voit les restes d'une église romane qui était sous le vocable de Saint-Nymphèse. On peut encore ajouter que le pape Jean XXII, originaire de Cahors, vous savez, au temps où Cahors était une université réputée. Donc, ce pape originaire de Cahors, Jean XXII, comme chacun sait, fonda au XIVe siècle une chapelle Saint-Nymphèse dans l'église Saint-Agricole d'Avignon. Vous voulez peut-être la date de sa fête?
Ah oui.
Donc, eh bien, c'est le 16 novembre. Mais je doute fort qu'il soit encore dans nos calendriers. Voilà, Armand, pour aujourd'hui.
Parfait.
Notre enregistrement s'achève et je vous dis aux semaines à venir.
Voilà, à la prochaine fois, Chantal. Merci beaucoup.
Avec plaisir, Armand. À très vite.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.